L'homme au corps subtil. Maurice Renard. Partie 1 sur 2. De la main du docteur Sambreuil de Pontargis. Aujourd'hui, 14 mars 1912, expire le délai que m'imposa Bouvancourt. Il m'est donc permis de raconter l'événement prodigieux dont il fut comme le héros gouverneur. C'est une histoire aussi belle qu'une légende. On y voit, pour ainsi dire, l'étincelle électrique rallumer la lampe d'Aladin. L'ami que nous pleurons encore eut cette aventure à Pontargis, quelques mois après son installation, quelques années avant sa mort tragique. On sait que le physicien s'était retiré là pour y travailler plus à l'aise, et que c'est dans la sous-préfecture picarde qu'il accomplit ses tâches les plus remarquables concernant les rayons X. Or, une nuit de l'hiver 1901-1902, n'ayant sur soi bizarrement ni pardessus ni couvre-chef, Bouvancourt arpentait les trottoirs de Pontargis d'un pas ferme et sonore, avec la mine d'un garçon qui se trouve joliment bien dans sa peau. Il avait guetté de sa fenêtre le moment où les rues seraient désertes, et alors il était sorti pour la première fois depuis 7 jours. Car, toute une semaine, la passion des recherches venait de le cloîtrer dans son laboratoire, aux prises avec une découverte imminente. 7 jours et 7 nuits, un temps fatidique. Il avait poursuivi la vérité comme une déesse habile aux ruses et prompte à la course. Elle s'était rendue à 9h du soir. Aussitôt, son vainqueur, tout frémissant d'orgueil, avait repris conscience de ses muscles et de ses nerfs. Un furieux désir l'empoignait de marcher bon train, sans idée, à l'air vif. Cependant, malgré l'autorité de son envie, Bouvancourt avait guetté de sa fenêtre le moment où les rues seraient désertes. Puis, il avait réveillé sa bonne, Mariette, la priant de lui ouvrir la porte et, après l'avoir convaincue de la nécessité d'attendre son retour derrière le ventail afin de tirer la bobinette quand elle entendrait sa voix, alors seulement il était sorti pour la première fois depuis 7 jours. Et Mariette n'arrivait pas à comprendre pourquoi son maître était parti sans chapeau, sans pardessus, ni pourquoi il l'avait éveillé dans le but de se faire ouvrir la porte au départ et à la rentrer sur un mot de sa bouche, alors qu'il pouvait si aisément tirer lui-même la bobinette et se servir du timbre, ou surtout de la clé. Mariette se préoccupait aussi de la bande à Morand. C'était une association de malfaiteurs qui terrorisait le canton. La domestique, sans songer au péril d'une promenade solitaire et tardive, estimait qu'il fallait être un rude égoïste pour laisser une pauvre femme toute seule, la nuit, dans un petit logement du boulevard Poincaré, tandis que la bande à Morand désolait le Pontargeois. Mais Bouvancourt n'aimait pas les observations. Mariette le savait, rien ne s'était manifesté de ses sentiments. Et le professeur arpentait le désert sinistre de la ville noire. Dans cette ombre provinciale, tout ce qu'on pouvait distinguer souffrait d'une laideur affligeante. Les avenues et les esplanades rivalisaient de honte avec les impasses et les encoignures. Les rares becs de gaz, avec leurs vilaines flammes jaunes mal éclairantes, avaient l'air de souiller les ténèbres. Le froid vous rendait malheureux. Le silence même semblait lamentable parce qu'il n'était que le mutisme de 35 000 citadins. Bouvancourt s'en souciait comme de Colin Tampon. Ni le lieu, ni la saison n'avaient de prise sur son bonheur. la tête haute, le pied retentissant, il marchait victorieux. Un sourire permanent égayait son visage et parfois s'amplifiait jusqu'au rire. Il se sentait la face d'Archimède errant à travers Syracuse et criant au peuple « J'ai trouvé !» Il marchait triomphal, comme au grand soleil de Sicile dans une cité remplie de palais. C'est ainsi que, les yeux ailleurs et l'esprit absent, Bouvancourt s'aventura dans le faubourg Saint-Charles où quelqu'un, tout à coup, se dressa contre lui. Bouvancourt sortit brutalement de son rêve. Il éprouvait la sensation d'avoir été transporté par enchantement à l'endroit qu'il apercevait. Un carrefour obscur où se croisaient quatre chemins gluants, longés de murailles aveugles. Isolée, lointaine, une lanterne faisait un peu de crépuscule et précisait la silhouette patibulaire qui venait de surgir. Ici, qu'on me laisse ouvrir une parenthèse. La scène suivante a duré peut-être un quart de minute. Le narrateur ne saurait la reproduire aussi lestement sous peine d'insuffisance. Il fonctionnera donc, si l'on veut bien, comme un cinématographe qu'on tournerait au ralenti pour analyser le film et décomposer l'événement. Notre Bouvancourt s'arrêta net devant l'obstacle humain. Son âme fut le théâtre d'un changement à vue remarquablement instantané. Avant que l'apache eût remué les lèvres, il s'était rappelé tous les crimes de la bande à Moran. Dieu sait pourtant s'il en avait parcouru le récit d'un œil distrait, lui pour qui la science était la seule réalité. Eh bien, à cette heure, voilà qu'il se souvenait du moindre assassinat dans ses moindres circonstances. Les noms même des victimes, lui revenaient aussi naturellement que des termes radiographiques. Et sa pensée fixait un affreux alignement de cadavres, digne des musées de cire forain. Vieille femme égorgée, fillette navrée, rentier carbonisé, encaisseur mutilé dont il connaissait l'état civil. Entre la veuve canue grimaçant avec sa figure bleue et la petite Angèle Braquard qui tendait son maigre col tailladé de plaies béantes, le sexagénaire Adolphe Pia, boursouflure calcinée. Mais l'escarpe soufflait au nez de Bouvancourt, d'une voix crasseuse et puante. « Pourriez pas me renseigner quelle heure qu'il est, patron ?» En même temps, le physicien perçut le bruit étouffé de savates qui l'approchaient par derrière. Tout son être lui conseilla de s'adosser au mur le plus proche. Il n'en eut pas congé. Quelque chose passa devant ses yeux de haut en bas, quelque chose de sombre qu'il jugea tout de suite. C'étaient les deux mains jointes de son ennemi postérieur, lequel s'occupait ainsi à perpétrer sur sa personne le coup rituel du « Père François ». Bouvancourt, dont les connaissances ne se bornent pas à la physique, anticipa d'une seconde la destinée et se vit déjà strangulé, maintenu par ce diable d'animal invisible, tandis que l'autre fouillerait commodément ses poches égoussées. Le lasso vivant se rabattit avec violence sur la pomme d'Adam du bourgeois, et celui-ci lâcha une espèce d'exclamation, moitié cri, moitié râle, assez incongrue somme toute, et d'ailleurs fort injustifiée, car il n'avait presque rien senti, et l'instinct seul était cause de la brusque reculade qu'il venait d'effectuer. Les mains offensives avaient disparu. L'oreille de Bouvancourt lui apprit que l'assaillant de ses derrières était en train de s'étaler durement et que, pour jurer bref, il n'en jurait pas mieux.
« À toi, Julot !»
fit le père François, dans une clameur sourde moins belliqueuse qu'épouvantée. « C'est vrai, » songea le savant, « moi qui n'y pensais plus. » Et Julot put revoir le sourire de Bouvancourt. Deux secondes alors, mais pas davantage, l'agression fut en suspens. Le père François se relevait péniblement et Julot se demandait s'il avait bien vu ce qui s'était passé. S'il avait bien vu les mains jointes de son complice disparaître à travers le goût du panté, trancher ce cou et cependant le laisser tel qu'auparavant sur ce robuste corps bien d'aplomb, sous cette tête souriante. Il hésitait, Julot, mais bah, cette décapitation, ses bras coupants, c'était un effet de la mauvaise clarté, le jeu des ombres et des lueurs. Il dit en lui-même une saleté qui lui servait de cri de guerre, et se courba, voulant fondre comme un bélier sur Bouvancourt et lui donner du Saint-Siput dans l'épigastre. Ainsi fut fait. Au risque de jeter le physicien à la renverse sur le père François, lequel terminait son relèvement douloureux et méditait de singulières hypothèses tout en surveillant l'action. Mais le drôle n'était pas au bout de ses chutes ni de ses ébahissements. À peine eut-il compris le destin de Julot qu'il recevait sa charge au creux de l'estomac, non sans avoir entrevu le camarade traversant de part en part l'adversaire phénoménal et s'échappant de son dos comme un clown jailli d'un cercle de papier. Bouvancourt, éclatant de rire, se retourna. Ses deux agresseurs, enchevêtrés, tordaient leurs efforts. À qui serait debout le premier ? Ce fut Julot. Il décampa. L'autre le suivit de près. De la main gauche, il se tenait l'abdomen et de la droite, il faisait des signes de croix. Tous deux, cependant, blasphémaient à l'envi. « Faut-il que je sois étourdi ?» murmura Bouvancourt. « J'avais complètement oublié, tête de linotte va, sortir la nuit à cause de cela, n'avoir point de chapeau à cause de cela, point de manteau à cause de cela, et ne pas se souvenir de cela. Vraiment !» Je dois être plus fatigué qu'il ne paraît. Allons nous coucher. Mais d'abord, où suis-je ? Sa course l'avait mené aux bornes de la ville. Un des murs était celui du cimetière, occurrence qui expliquait la terreur superstitieuse du père François. Le noctambule, l'allure beaucoup moins conquérante, reprit le chemin de son logis. Il rentra. Mais je ne suis plus assez renseigné pour décrire par le menu tout ce qu'il fit alors. Je le sais grosso modo seulement, et j'aime mieux reporter ses dires secondaires au moment où je l'ai reçu de sa bouche, à la fin de cette histoire. Toujours est-il que, le lendemain matin, vers 8h, ayant à passer par là, je sonnai chez le physicien, 25 boulevard Poincaré, au premier étage. À mon ordinaire, j'entrais sans façon. Bouvancourt sembla contrarié de ma visite. Je m'empresse de dire que ce jour-là, rien ne me fut livré de l'attaque nocturne. Je le trouvais dans sa chambre. Il avait dû se lever tôt, à moins qu'il ne se fût pas couché. Le lit étant déjà refait, ou n'ayant pas été défait. L'inquiétude se lisait à son regard. Debout, en face de l'horloge, mon ami la consultait avec une anxiété qu'il ne put travestir. Quelque chose, je ne sais quoi, de débraillé, voire de mal tenu, régnait sur toute sa personne. Je lui tendais la main. « Non, non, pas aujourd'hui, » s'excusa-t-il en ricanant. « Je ne vous donnerai pas la main sans breuil. La goutte, voyez-vous. » « Ah, j'ai les doigts d'insensible, vous ne figurez pas ce qu'on souffre. Et puis, tenez mon bon, tout m'énerve ce matin. Pardonnez-moi, mais ça ne vous ferait rien de revenir cet après-midi ? Vous n'aviez pas de communication urgente, non ? Eh bien, à tout à l'heure, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas idée. Au revoir, cher ami, et toutes mes excuses les plus plates. Au revoir !» Une pareille réception me jeta dans un étonnement noirci de frayeur. J'avais observé que Bouvancourt s'était tenu soigneusement à l'écart, à contre-jour, en pestiféré. D'habitude, il me reconduisait jusqu'au palier. Cette fois, je le laissais dans sa chambre, seul à seul avec l'horloge. D'un coup de pied, il ferma la porte sur ma retraite. j'étais remplie d'alarmes et de chagrin. À 4 heures sonnant, dès que ma consultation médicale fut close, je me précipitais boulevard Poincaré. Tout avait repris le bon aspect quotidien. Bouvancourt m'attendait pour faire une promenade le long du canal, ce canal qui devait lui être si funeste. Il avait, je m'en souviens encore, son paletot noisette et son feutre marron. Le check-hand du professeur me brisa les phalanges, mais quelle poignée de main pouvait me rendre plus heureux? Nous partîmes. J'attendais un éclaircissement. Je le sollicitais par des allusions. L'ami restait quoi? Nulle gaieté, du reste, en ses manières. Je soupçonnais quelques déceptions, je crus à l'échec de ses derniers travaux, et je n'insistais pas davantage. Une semaine plus tard, nous étions à déjeuner, Madame Sambreuil et moi, lorsque Bouvancourt fit irruption dans la salle à manger. Son affolement nous bouleversa. Je lui administrais coup sur coup 2 verres de ratafia qui le remontèrent. Au bout d'un certain nombre de soupirs et d'exclamations telles que « Oh là là, mon Dieu, est-il possible? Moi, mon bon docteur, ah madame, si vous saviez !» etc. L'excellent homme fondit en larmes et commença de nous faire savoir ce qu'on avait déjà lu, complété de ce qu'on va lire. Quelques heures auparavant, il était je crois 9 heures du matin, Bouvancourt s'était mis au travail d'assez mauvaise humeur, à cause d'un employé du chemin de fer, chargé d'une caisse d'appareils qui l'avait heurté maladroitement au point de lui meurtrir l'épaule. Toutefois, il avait entrepris sur le champ le déballage des précieuses verreries et leur disposition sur les tablettes du laboratoire. La besogne tirait à sa fin quand un jeune homme, de fort belle apparence, entra sans se faire annoncer, ferma les 3 portes de la salle à double tour, serra les 3 clés dans sa poche et s'avança. Bouvancourt était à genoux près de la caisse, dans le foin, et le dévisageait d'un air abasourdi. « Monsieur, dit l'inconnu, que je me présente au moins. » Sa voix chantait, douce, aimable, mondaine. « Je suis Morand, vous savez, la bande à Morand. » Bouvancourt sauta sur ses jambes. Non seulement troublé d'être à la merci du coquin, mais encore stupéfait de lui voir les traits d'un potage de bonne famille et de reconnaître en ce bandit gracieux, débarrassé de son déguisement, le facteur qui l'avait bousculé tantôt. « N'ayez pas peur !» vocalisa l'intrus dans un rire perlé, si féminin, si puéril, que mon ami flaira à subterfuge et mystification. « N'ayez crainte !» Je ne vous ferai pas de mal. Quoi ? Ce serait vous, Morand ? Vous qui avez fait assommer le garçon de recette du crédit foncier ? Vous, l'auteur du sextuple assassinat de votre mon ? Vous, l'escroc de... L'Antinous répliqua, le verbe acide et le masque durci. Oui, monsieur Bouvancourt, c'est moi. Je n'ai aucune raison de le cacher à mon futur complice, car c'est encore moi l'auteur du vol de 1 500 000 francs au comptoir d'escompte de Pontargis. Qu'est-ce que vous dites, mais je l'ignorais. Quand donc ce vol sera commis la nuit prochaine, mon cher monsieur Bouvancourt, et c'est vous qui m'aiderez à l'exécuter. Moi ? Vous m'aiderez, reprit le gamin avec une expression de vice et de cruauté. Vous m'aiderez, vous dis-je, aussi vrai qu'on m'appelle Morand. Asseyez-vous et faisons la causette. Le maître de la maison s'assit à la prière de son hôte. Dominé sous un regard de tigre, il pensait à la jeunesse des brutes impériales, Néron, Caracalla, Tibère, et il acceptait maintenant que ce fût là le terrible chef de bande. Celui-ci continua. « 2 de mes employés m'ont fait un rapport incroyable. Une étrange avanie leur fut infligée mardi, vers minuit, près du cimetière. » les bras du premier, devenu soudain yatagan, ont décollé certains promeneurs sans lui causer le plus petit dégât. Quant au second, il a passé au travers de ce personnage surnaturel qui s'en aperçut tout juste suffisamment pour s'esclaffer de la diablerie. Ce promeneur attardé, monsieur, ne pouvait être que le magicien Bouvancourt. Je connais l'annuaire pontargeois. Il ne renferme qu'un nom de sorcier, le vôtre. Et comme l'époque de mon bachot ES Science n'est pas encore très reculée, j'ai compris que, par l'intervention de la radiographie, vous veniez de découvrir le moyen de vous rendre aussi traversable, aussi insaisissable, qu'un homme de gaz ou de liquide. Ce n'est pas tout à fait cela, remarqua Bouvancourt avec un fin sourire. La comparaison, aucune importance, déclara le pervers Adonis. L'intérêt pour moi réside non dans la cause, mais dans les faits. La cause, cependant, rayon X, n'est-ce pas?
Oui,
révéla Bouvancourt, entraîné par son dada favori. Oh, rien de plus bête en principe. Le problème était celui-ci. Douer les corps solides, opaques ou transparents, des qualités de pénétration dont jouit la lumière obscure. Autrement dit, les rendre tels, ces solides, qu'ils puissent traverser les autres solides non traités et par conséquent qu'ils puissent être traversés par eux, ce qui revient au même. Pour cela, il fallait parvenir à les imbiber, si j'ose dire, de lumière obscure en sorte qu'ils fussent modifiés profondément jusqu'en leurs molécules les plus secrètes, acquérant ainsi la propriété du fluide envahisseur, c'est-à-dire la propriété de traverser les masses sans les écarter comme par exemple un nageur pénètre dans l'eau et comme nous fendons l'atmosphère. Mais par une sorte d'osmose immédiate, comme deux régiments se croisent l'un dans l'autre, homme contre homme, sans subir de dilatation. Cela revenait à jouer de la porosité de la matière, qui n'est jamais assez dense pour qu'on ne puisse l'envisager comme une troupe d'atomes. Eh bien, l'autre jour, mardi, j'étais chargé de ce fluide, comme un condensateur et chargé d'électricité. Mais pour être exact, ce fluide n'est pas uniquement de la matière obscure, car il faut que les corps traités pénètrent aussi les substances que les rayons X ne traversent point ou ne traversent qu'à regret. Alors, bon, reprit Morand, c'est bien à peu près ce que j'avais supposé. Bref, si nous changeons de langage, vous avez le pouvoir de rendre insaisissable un homme tout habillé. Par le fait de la même opération, cet homme se rira des balles, des poignards, et comme il pourra traverser toutes les portes closes, portes de banque ou portes de prison, quel jeu pour lui de plonger son bras dans un coffre-fort incrochetable, aussi benoîtement qu'un faisceau de rayons X. « Ah, mais !» s'exclama Bouvancourt, enfin renseigné sur l'objet de la démarche. « Ah, mais c'est que... Oui, seulement... »« Seulement cela ne dure pas toujours, n'est-ce pas? C'est ce que vous alliez dire? Je le sais. Pour m'en assurer, je suis venu vous tamponner tout à l'heure, en commissionnaire de la gare. Je vous ai reconnu. Mais au fait, qu'est-ce que cela pouvait bien vous faire, que je fusse tangible ou non ?» ajouta Bouvancourt. « Ceci, répondit le brigand, que si vous ne l'étiez pas redevenu ce matin, j'aurais différé ce colloque, et que si vous aviez toujours conservé le don de subtilité, je ne serais jamais revenu. »«
Pourquoi donc ?» demanda Bouvancourt.
« Parce qu'il entre dans mes plans que vous ne soyez pas invulnérable, maître, vu que j'ai grand besoin de vous tenir au doigt et à l'œil, sans que vous puissiez déguerpir à travers les huisses dont j'ai mis la clé dans ma poche, et vous moquer de l'ustensile que voici. » Ce disant, le redoutable bachelier braquait sur le savant un revolver. Attitude mélodramatique usée, d'un bien petit effet sur le lecteur, mais toujours neuve, et singulièrement, pour celui qu'on menace. Bouvancourt se prit à réfléchir. Sa tête bourdonnante lui semblait un nid d'abeilles où l'essaim des idées tourbillonnait.
Depuis quelques minutes, il se demandait si le personnage ambigu de Morand n'était pas une femme de 30 ans plutôt qu'un damoiseau de 18. C'est qu'il s'exprimait avec un aplomb. Ses discours avaient tant d'assurance et trahissaient tellement l'habitude de la parole. Et puis, que de grâce et de beauté. Mais, simultanément, Bouvancourt se représentait les crimes de ce fauve, mâle ou femelle. Les victimes de la bande à Morand se levaient à nouveau dans son horreur, poussant des plaintes d'agonie. Et tout cela restait noyé dans la grande perplexité confuse où se débattait la volonté du physicien devant cet acte malfaisant qu'on était sur le point de lui commander. À cet égard, 1000 conceptions s'entrecroisaient si fougueusement dans la ruche de sa cervelle qu'il ne voyait plus clair au-dedans de lui-même. La créature qui le tenait en joue releva son arme. Le geste fut empreint de désinvolture professionnelle et de joliesse efféminée. Cartouche et Mademoiselle de Maupin s'y combinaient. Morand poursuivit, après un court instant.
« Je sais donc, Monsieur Bouvancourt, que l'insaisissabilité ne dure qu'un temps.
C'est ennuyeux, car autrement, elle eût été synonyme d'impunité. Plus d'arrestation possible, évasion simple comme un bonjour. Enfin, le couperet de la guillotine. »
Morand fit une pause et compléta sur un rictus.
« On n'eût jamais été coupable. »
« Tant pis, mais répondez. Pendant combien de jours garde-t-on la vertu de subtilité ?»«
16 heures et 12 minutes, » répondit Bouvancourt, tremblant de la requête qu'il pressentait.
« Pas davantage ?»«
Après tout, c'est plus qu'il ne m'en faut aujourd'hui pour expédier le coup du comptoir d'escompte. À minuit, le tour sera joué, » dit Morand.
Bouvancourt tressaillit.
Mais il y a toujours un gardien qui veille dans les caves et... » «
Commençons tout de suite, » ordonna Morand.
Bouvancourt eut un cri de révolte.
« Et si je ne veux pas, moi ?»«
Je saurais vous y forcer, »
annonça Morand.
« Je vous y forcerai chaque fois que je voudrai. Pour le présent, ceci me suffira. »
Le revolver toucha le front vénérable du physicien. Bouvancourt ferma les yeux. Quand il les rouvrit, une âme nouvelle s'y reflétait. Morand, qui s'attendait à la péripétie, rempocha son instrument de persuasion.
« Soit, »
opina Bouvancourt, d'un ton peut-être résigné, mais plutôt résolu.
« 15 minutes. Je vous demande 15 minutes pour accomplir votre métamorphose. »«
Naturellement, »
fit Morand avec légèreté.
« Vous désirez que votre corps tout entier devienne insaisissable ?»
« Pardieu, parbleu, cela va de soi, des pieds à la tête. »«
Des pieds à la tête, fort bien. Je vous posais cette question parce que c'est mon devoir. Quand vous allez chez le photographe, n'est-ce pas, on vous interroge, »
ajouta Morand.
« En pied, mon cher maître, je veux être intangible en pied. »«
Non, mais vous n'y pensez pas. À quoi me servirait de pouvoir m'introduire à travers une clôture si mes talons, par exemple, devaient rester dehors à me retenir ?»
« Voyons, mon associé, » dit Morand.
« Eh bien, bien, c'est votre affaire, en effet. Venez par ici. »
Bouvancourt se dirigea vers une portière. Avant de l'écarter sur un seuil mystérieux, il s'arrêta disant.
« Vous me jurez que vous êtes Morand ?»
La demande fit sentir au meurtrier quel ascendant sa vogue infamante exerçait et combien il avait eu raison de se nommer. L'orgueil lui chauffa les tempes.
« Et comment ?» fut sa réponse glorieuse.
« Entrez donc, » décida Bouvancourt.
« Gare les rayons X, chanté par Madame Rolligny. » Les rayons X sont certainement d'une lumière très commode. Pour contempler secrètement les petites femmes à la mode, ces rayons vraiment folissants vous font voir tant mystère. Les peaux mollets, les peaux nichons et le bouton de la jarretière. trou partout, partout. Et l'on n'a pas même le temps d'y penser. Qu'on est déjà un rayon, rayon, rayon X-té. Par ce procédé peu discret, la douane dans toutes les gares. Regardez si vos endroits secrets ne contiennent pas de cigares. Mais vous restez vraiment papa quand un douanier sévère aperçoit des blagues à papa dans le corset de votre belle-mère. Il paraît que ça passe à travers tout, partout, partout. Ça passe et ça repasse dans les petits trous, partout, partout. Et l'on n'a pas même le temps d'y penser. Qu'on est déjà un rayon, rayon, rayon X-té. Y'a que le métal pour résister à ces rayons bizarres. Les petites femmes afin de protester vont se faire nicler d'ardeurs. Les demi-mondaines se font dorer, mais les femmes sans galette sont forcées de se faire étamer, dépliées jusqu'à la tête. Il paraît que ça passe à travers tout, partout, partout. Ça passe et ça repasse dans les petits trous, partout, partout. Mais quand tout le monde sera métallisé, on ne pourra plus rayon, rayon, rayon X-T.